professeur en sciences de l'information et de la communication à Lyon. Sylvie Lainé travaille sur les mutations du numérique. Parallèlement, elle publie des nouvelles et des novellas de science-fiction, très souvent récompensées. Grand prix de l'imaginaire, 3 fois prix Rognéné. Tu as 4 fois prix Rognéné, pardon. Vous avez assez de cheminées pour ça, Sylvie Lainé ? Prix 7e continent, prix du lundi, prix Alain Donrémieux. Novellas et nouvelles qui ont été traduites en plusieurs langues. Elle a publié 4 recueils aux éditions ActuSF, Le miroir aux éperluettes, Espace insécable, Marouflage, et en 2014, l'opéra de Chaillat qui a obtenu le prix Bob Morane, le grand prix de l'imaginaire et le prix Rognéné, presque... c'est le grand chelem.
C'est le 4e.
C'est le grand chelem. La science-fiction entre ses mains est un merveilleux outil d'exploration de l'âme humaine. Sylvie Lainé, nous n'avons pas l'habitude, toutes les deux, mais vous permettez que je vous sois.
Ça va être difficile.
Ça
on
va être
essayer.
Très dur, mais nous allons essayer. Vos premiers textes paraissent aux environs de 1985 dans un fanzine auquel vous collaborez avec Marcus Licht, Les Lames Vorpales. Et c'est à ce fanzine, je crois, que vous devez l'édition de vos premiers textes. Qu'est-ce qui vous attire dans les fanzines ? Vous attirez ? Ou pour formuler la chose autrement, l'ASF pousse-t-elle naturellement aux fanzines ?
Alors, j'ai tout simplement commencé à écrire dans des fanzines parce que, à l'époque où je lisais beaucoup, les auteurs que je n'avais jamais rencontrés en vrai me paraissaient des créatures supérieures qui n'étaient évidemment pas de la même race que moi, donc je n'aurais jamais osé imaginer que j'écrirais un jour. Et un fanzine, c'est donc une revue amateur, en l'occurrence elle était faite par un copain qui était bouquiniste à Lyon, avec qui j'étais vraiment dans un climat de camaraderie très simple, et c'était un projet qui me semblait à ma hauteur et qui était beaucoup moins impressionnant. Donc, voilà, je n'ai plus les mêmes inhibitions pour me lancer dans un projet comme ça qui devenait quelque chose de tout naturel, en fait, et de convivial en même temps.
Et tu n'écrivais pas avant ?
Non, non, je n'ai jamais eu l'idée d'écrire avant. Si, j'ai dû écrire des poèmes. On a même publié quelques poèmes dans Les Lames Vorpales. Mais écrire un poème, c'est quelque chose d'instantané, c'est la transcription d'une émotion, c'est pas le même projet du tout que de construire un texte et d'essayer d'y faire passer des idées un peu ambitieuses au-delà de l'émotion. Donc c'était pas le même type de projet. Et puis c'était des nouvelles, c'était des poèmes pour moi, hein, je les montrais à personne.
C'est bien de caler des tables avec des poèmes tout de suite, ça fait... C'est joli. Vous êtes novelliste, l'une de nos plus intéressantes et novatrices novellistes. Vos œuvres primées sont des nouvelles, donc. La nouvelle en France est un genre littéraire qui souffre d'une image paradoxale, on va dire. D'un côté, elle est considérée comme l'apanage des grands écrivains, Barbet d'Aurevilly, Maupassant, pardon. Mais de toute façon, ce n'est pas moi qu'on doit entendre, c'est toi. Pardon,
si,
c'est
quand
vous.
Même.
Je ne vais pas y arriver. Villiers de l'Isle-Adam. De l'autre, tu dois avoir ta dose de questions. Aïe, je ne vais pas y arriver. Et alors, quand est-ce que vous passez au roman ? Qu'est-ce qui fait de vous une novelliste ? Qu'est-ce que c'est pour vous une nouvelle ? Croyez-vous que le passage au roman soit indispensable ?
Alors non, je ne crois pas du tout que le passage au roman soit indispensable. D'abord parce que comme lectrice, j'adore les nouvelles. Donc ce n'est pas la même chose qu'un roman. C'est juste une forme complètement différente dans son principe. De même que je ne suis pas du tout persuadée que pour devenir un romancier, on soit obligé de passer par le stade des nouvelles. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la plupart des gens qui sont destinés à devenir des romans écrivent directement des romans. On a une espèce de représentation, je ne sais pas si c'est en France, selon laquelle la nouvelle serait un espèce de stade pour les débutants qui leur permettrait de faire leurs armes. Je ne vois pas du tout les choses comme ça. Pour moi, la nouvelle, c'est une forme d'écriture qui a vraiment des caractéristiques très particulières. La nouvelle, c'est une immersion brutale dans un univers dont on ne vous exposera pas toutes les règles et tous les principes. Et où le lecteur finalement devra boucher des trous et donner du sens et fabriquer quelque chose qui lui appartient à lui. On est beaucoup plus passif, à mon avis, dans un roman. Il y a des romans magnifiques, hein, je dis pas, j'essaie juste de défendre la nouvelle par rapport au roman. Mon intention n'est pas de critiquer le roman, mais dans un roman, on vous fournit tellement de matière, tellement d'éléments, un peu comme quand vous regardez un film, que finalement, on vous donne quelque chose qui est complet. Il n'y a pas autant de reconstruction à faire que dans une nouvelle qui vous en dit peu. Et pour comprendre où elle voulait vous emmener, vous devez y injecter du sens. Et chacun n'injecte pas exactement le même, d'ailleurs. Je ne sais pas si les romanciers ont les mêmes retours que les novellistes, et le même plaisir, d'ailleurs, à avoir ces retours. Mais moi, parmi les choses que j'adore, il y a le fait que à peu près tous les gens qui ont lu mes nouvelles m'en disent des choses très différentes. Et je sais pas si, franchement, j'aimerais savoir si ça arrive aux romanciers. Mais on me dit des choses totalement contradictoires, quelquefois. Il y a des gens qui me disent... J'adore vos univers optimistes, légers et porteurs d'espoir. Et puis, il y a des gens qui me disent, vos univers sont sombres, on y éprouve à la limite un certain malaise parce qu'il y a des choses qui nous interrogent et vous n'avez pas des univers confortables. C'est quand même complètement contradictoire et on me dit les deux. Enfin, c'est pas seulement sur ce plan-là. Il y a des gens qui disent que j'ai une écriture poétique, ce qui me surprend toujours, et des gens qui me disent que j'ai une écriture très sobre et très dépouillée, ce qui, a priori, est un peu aux antipodes de ce qu'on appelle le registre poétique, habituellement. Donc, voilà, chacun en fait un peu ce qu'on veut d'une nouvelle. Si elle vous touche, elle vous touche d'une manière qui vous appartient. Pour un roman, je pense que l'auteur a beaucoup plus le contrôle.
Tiens, c'est curieux, cette idée de contrôle sur la nouvelle... par rapport au roman, la romancière que je suis, et un tout petit peu novelliste, j'ai plus l'impression d'être au contrôle quand je suis dans la nouvelle, parce qu'il n'y a rien qui nous échappe, en fait.
À la nouvelle, il faut tout contrôler quand on est auteur, au sens où on ne peut pas se permettre d'y mettre... S'il y a deux phrases qui sonnent faux dans une nouvelle, le lecteur décroche. Alors que dans un roman, finalement, on peut se permettre, je pense... Enfin, je dis ça, j'y arrive pas, moi. Mais je pense que quand on est romancier, on peut se permettre d'avoir une ou deux pages où il y a moins d'enjeux, qui sont moins significatifs, moins fortes. Dans une nouvelle, on ne peut pas trop se le permettre. Si l'intérêt décroche dans une nouvelle, on perd le lecteur, je pense. Donc, il faut tout ficeler. Mais tout ficeler, ça ne veut pas dire tout expliciter. Ce n'est pas la même chose. Tout contrôler... C'est tout contrôler, en particulier au niveau de... Pour moi, j'accorde beaucoup d'importance à la musique des mots, à la sonorité du texte, à l'ambiance qu'il porte, aux émotions qu'il véhicule par ses sonorités, déjà. Je ne crois pas qu'on puisse faire le même travail sur le style et la musique du texte sur une longue distance. D'ailleurs, moi, c'est une des choses qui me bloque. Je pense que si on essayait de faire ça sur des grandes longueurs, ça serait un peu... si on travaillait comme je le fais moi en tant que nouvelliste sur un roman, j'ai l'impression que je finirais par donner la nausée au lecteur. Je me trompe peut-être, mais qu'on peut faire des expérimentations avec la nouvelle qu'on ne peut pas faire sur le roman. Or, moi j'adore les expérimentations et je me sers de la nouvelle pour ça. Tu veux qu'on reparle des fanzines ?
Pardon, des fanzines, vas-y.
Oui, non, parce que tu avais une première question. Je crois que je n'ai répondu qu'à la moitié de la question.
Non, mais on peut continuer.
Non,
si
non,
tu
non
veux.
Comme tu veux. C'est toi le chef.
Ah non, c'est toi.
J'ai réussi à la faire me tutoyer. Je savais que j'y arriverais.
C'est bas, ça, madame l'aînée, je vous le dis. C'est très bas. Bien. Et bien là, je vais te mettre en position un petit peu peut-être d'inconfort à ton tour.
Voilà. C'est mon tour.
Alors, dans des précédentes interviews, vous avez déclaré que la SF vous avait appris à vous frotter non seulement aux autres mondes, mais aux autres tout court, puisque votre enfance n'a pas été tout à fait aussi sociale que la plupart des autres. Vous parlez de décodage du monde. La SF... Exerce cette, exerce-t-elle cette fonction à vos yeux? Y parvient-elle? Et à titre personnel, quelle fonction principale lui assignez-vous? Et blâme, démerde-toi.
Elle est dure. Bon, alors on va commencer par quand j'étais petite. C'est vrai que j'ai eu une enfance atypique parce qu'il se trouve que j'ai appris à lire très tôt, je devais avoir 3 ans et demi, que quand, dès que j'ai appris à lire, j'ai plongé dans des bouquins et que le résultat, ça a été qu'au moment où j'ai atteint l'âge à partir duquel il devient obligatoire d'aller à l'école, je pouvais décemment pas rentrer en cours préparatoire. Du coup, mon décalage scolaire a fait que je n'ai pas pu être inscrite dans une école traditionnelle et que j'ai fait toute ma scolarité par correspondance. Je n'ai pas mis les pieds dans une école et je n'ai pratiquement pas rencontré d'autres enfants et je n'ai pas été socialisée, en gros, avant la 6e à l'âge de 9 ans. C'est particulier comme enfance. Et mon univers, c'était les livres. Donc les livres que j'avais sous la main, c'était la bibliothèque de mes parents. Mes parents avaient une bibliothèque dans laquelle il devait y avoir, je ne sais pas, 300 ou 400 livres, qui étaient en général des classiques. J'ai lu Zola, j'ai lu Moravia, j'ai lu André Gide, Giraudoux, des tas d'auteurs qui font partie de la culture classique. Et j'avais une espèce de frustration à cette époque-là, parce que j'aimais bien ces histoires, mais en même temps, ce qui préoccupait les personnages des histoires que je lisais, bon, à l'époque, je suis une vieille dame, donc à l'époque, il n'y avait pas de collection pour la jeunesse, à part la Bibliothèque Verte ou la Bibliothèque Rose. Oui, j'ai lu, il n'y avait pas grand-chose, hein. J'ai lu Les 5 jeunes filles, j'ai lu L'Angelot, agent secret, j'ai lu 2-3 trucs dont j'ai un très bon souvenir, mais pour l'essentiel, c'était quand même la bibliothèque pour adultes qui était mon fond de référence. Et dans cette bibliothèque pour adultes, les gens se préoccupaient d'histoires de famille, de jalousie, d'argent, de travail. Et tout ça, ce n'était pas du tout mes préoccupations de gamine. Donc, je trouvais ça intéressant de plonger dans la tête d'un tas de gens. Mais en même temps, je n'arrivais pas à imaginer que je leur ressemblerais un jour à ces gens. Ils étaient très, très différents de moi. Et puis, un jour, mon père m'a ramené, une fois que j'avais fini la bibliothèque de mes parents, commençait à devenir pénible, à tourner en rond dans la maison. Donc, mon père a commencé à me ravitailler avec la bibliothèque d'entreprise. Et un peu par hasard, parce que lui, il en lisait de temps en temps, il s'est mis à me ramener de la science-fiction. Alors, c'était de la belle science-fiction, celle qu'il y avait à la bibliothèque du comité d'entreprise d'IBM. C'était « Ailleurs et demain », c'était « Présence du futur », et c'était les collections les plus prestigieuses de la science-fiction de l'âge d'or. Donc les premiers livres que j'ai lus, c'était Silverberg, Asimov, Norman Spinrad, et bon, les grands, avec un G majuscule. Et j'ai été instantanément éblouie, parce que mon univers à moi, il était tout petit. En gros, je passais l'essentiel de ma vie assise sous la table de la cuisine avec un bouquin, en ne parlant pratiquement à personne. Et d'un seul coup, j'ai découvert des univers qui non seulement étaient immenses, qui posaient des tas de questions auxquelles je n'avais jamais pensé et qui me changeaient tellement merveilleusement de toutes ces questions d'adultes autour de moi qui me paraissaient quand même... qui m'intéressaient pas tant que ça, j'avoue. Et on posait des vraies questions sur... Alors, le premier livre que j'ai lu, c'était Norman Spinrad, Les Solariens. Et la question, c'était juste... C'était pas une question, c'était juste une histoire dans laquelle il y avait des gens qui voyageaient à bord de vaisseaux spatiaux et qui avaient choisi de vivre en mode collectif. Mais ce qui était intéressant, c'était la manière dont se fabriquaient ces collectifs. C'était des gens qui avaient choisi de se réunir parce qu'ils étaient différents les uns des autres, parce qu'ils étaient complémentaires. Et moi, j'étais dans un monde où on était ensemble parce qu'on était de la même famille. Et quand on était de la même famille, en gros, on se ressemblait. Ou on ne fréquentait que des proches qui, en gros, se ressemblaient. Et tout d'un coup, l'idée qu'on pouvait créer des petits collectifs humains sur des principes complètement différents, ben, ça remettait tout en cause. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais on a le droit d'imaginer des tas d'autres manières de vivre ensemble auxquelles moi, j'aurais jamais pensé toute seule. Donc, je me suis mis à en dévorer des tas, des livres de science-fiction, et je continue toujours autant, parce qu'il y a toujours cette découverte extraordinaire d'imaginer une manière de vivre que je n'aurais pas imaginée toute seule, que non seulement je n'ai pas rencontrée, que peut-être personne n'a expérimenté encore, mais c'est génial comme idée, on pourrait essayer de le faire. Et ça fait grandir le monde intérieur qu'on a en soi. Et c'était vraiment un besoin que j'avais à cette époque. Mais on a des vies, elles sont toujours trop petites, nos vies, par rapport à tout ce qu'on aimerait faire. On peut faire différentes choses, on les fait à tour de rôle, mais on ne peut pas en faire tant que ça. Moi, j'ai jamais été un homme, un être de sexe masculin. Je n'ai jamais été une créature avec des tentacules et j'ai jamais été des tas d'autres choses. Déjà, j'aimerais bien savoir comment ça fait. Ben, en lisant de la science-fiction, on peut faire des expériences extrêmement troublantes et qui, paradoxalement, aident à réfléchir sur qui on est.
Donc c'est bien une fonction de décodage, finalement.
C'est une fonction de décodage, c'est une fonction de communication, c'est une fonction de... surtout de changement de point de vue. Alors ça, on dit toujours ça à propos de la science-fiction, mais je le pense aussi fondamentalement. Prendre les choses, prendre le monde sous l'angle de la science-fiction, c'est changer le point de vue et changer le regard qu'on a sur la réalité, sur l'humain, sur la société, sur la politique, sur tout ce qui fait notre univers réel, mais le regarder sous un angle décalé.
Et du coup, tu pourrais envisager d'écrire dans un autre genre? Vous pourriez envisager d'écrire dans un autre genre?
Bah, ça m'est arrivé un petit peu. En particulier, il y a une de mes nouvelles, je ne sais pas si certains la connaissent ici, c'est la nouvelle qui s'appelle La Bulldeuse, qui est dans Le Miroir aux Éperlouettes, je crois. Cette nouvelle, au départ, je voulais écrire une nouvelle de littérature générale. Je voulais juste raconter une nouvelle qui parlait de l'absence, de la forme qu'a l'absence de quelqu'un et du manque qui crée, de l'émotion. Et bon, j'avais même déjà l'idée du cocktail dans lequel quelqu'un, à travers sa couleur, à travers la lumière, essayait de reconstituer l'émotion d'une présence qui n'était plus là. Et cette nouvelle, je l'ai écrite sous forme d'une littérature générale. Je l'ai écrite complètement. Puis après, je l'ai relu et je me suis dit, mais c'est d'une platitude, c'est d'une banalité désespérante. Cette nouvelle, ça ne sert à rien de l'écrire. Et c'est là que j'ai fait l'expérience. C'était une de mes expériences littéraires les plus étonnantes, de me dire, elle deviendra intéressante si je la mélange avec quelque chose qui n'a rien à voir, avec un ingrédient qui est d'une nature complètement différente. Donc j'ai pris l'art science, la transmission instantanée d'informations entre des molécules jumelles, à travers un faux article scientifique, mais qui devait sonner assez juste, puisqu'il y a quand même après des gens, des scientifiques sérieux, qui m'ont écrit en me demandant les références de l'article que je citais dans Science et Vie, et qui bien évidemment n'existait pas. On me l'a demandé, j'étais fière le jour où on m'a demandé les références de l'article. Et donc en mélangeant de la hard science avec de l'émotion très humaine et très quotidienne, parce que franchement il ne se passe pas grand chose dans cette nouvelle. Mais le mélange des deux, ça suffisait pour changer le point de vue et en faire une nouvelle qui voulait dire quelque chose qui restait à construire. Après je ne sais pas ce que chacun en a fait.
Alors de mon côté, c'est... typiquement le type de nouvelle.
On t'entend pas.
C'est typiquement le type de nouvelle où vous êtes dans la poésie pure, simple, celle qu'on va retrouver dans la simplicité d'une robe de Dior, tu vois, la petite robe noire. C'est là que tu peux.
Là, elle est dorée, la petite robe.
Oui. Et là, c'est exactement ça, ta poésie. Tu vois ? Il n'y a pas besoin d'y mettre des pompilles, contrairement à ce que se disent certaines romancières de science-fiction. C'est pas obligé. La poésie, c'est pas forcément la joncaille, tu vois. Alors, dans une précédente interview, je t'ai demandé que faisait un écrivain de science-fiction. À quoi on savait qu'on était un écrivain de science-fiction. Et tu m'as répondu, on est écrivain de science-fiction quand on peut se demander à quoi pense le sable. Et là, j'ai envie de te demander comment on fait pour avoir ne serait-ce que l'idée de se demander à quoi pense le sable.
Alors, au moment où tu m'as posé cette question, j'étais en train d'écrire un amour de sable. Et je ne vais pas raconter un amour de sable, mais je peux quand même vous dire comment elle est construite. Des humains se voyagent et découvrent une planète à la surface de laquelle il y a du sable partout, du sable de différentes couleurs. Et les humains, qui sont des êtres raisonnablement curieux, essaient d'analyser ce sable, de comprendre pourquoi l'état des différentes couleurs ne se mélange pas, font des prélèvements, mesurent la tension magnétique à l'intérieur du sable, font des expériences tout à fait classiques, puis finalement se disent « Bon, bah, ce sable, il est bien, on pourra inviter des colonies de vacances qui feront des châteaux de sable. Bon. » Puis font des... Et en fait, ce dont ils ne sont pas absolument pas conscients, et je le raconte en parallèle, les deux récits sont alternés, sable est une créature consciente, est une créature complexe, un petit peu comme une fourmilière serait une créature intelligente, mais dont les éléments constitutifs seraient des fourmis. Le tas de sable est une créature pensante, qui d'ailleurs va souffrir physiquement au moment où on va faire un prélèvement pour justement faire des examens, et puis qui va vivre la rencontre de son point de vue à sa manière et qui va la raconter. Et d'ailleurs, il va tomber passionnément amoureux de l'humain qui lui fait vivre une expérience aussi enrichissante et aussi merveilleuse. Bon, je savais au départ que je voulais faire se rencontrer des humains et un tas de sable. Je voulais faire se rencontrer des créatures qui étaient tellement différentes qu'elles ne pourraient même pas communiquer. Non seulement elles ne peuvent pas communiquer, mais elles sont pas... L'humain n'est pas conscient de l'existence de sable. C'est même pire que la non-communication. On n'est même pas conscient du fait qu'on a quelqu'un en face. Et pour raconter cette histoire, il fallait que je me mette dans la peau de sable. Et ça, c'est le genre d'expérience qui est fascinante à vivre quand on est un auteur de science-fiction, mais que je pense que tout auteur de fiction vit d'une manière ou d'une autre. Mais nous, on a des points de départ qui sont... bizarres, qui sont décalés, qui sont inattendus. Et après, pour que l'histoire vive, il faut se mettre à l'intérieur et il faut ressentir les émotions, les sensations, les réactions de celui qui est à l'intérieur de l'histoire. Et c'est quand on les écrit que l'histoire se fabrique vraiment. C'est en mettant les mots sur le papier et des mots qui essaient de retranscrire toute l'émotion et les sensations perçues que l'histoire prend corps et qu'elle prend du sens. Donc, oui, il faut, entre autres, se demander qu'est-ce que ça fait de... comment on pense quand on est sable. Mais toutes les questions sont aussi étonnantes que celles-là. Je l'avais sous la main au bon moment.
Alors, vos personnages semblent choisir différemment masculin ou féminin. Vous êtes aussi à l'aise pour faire parler les uns que les autres. Ainsi, dans votre travail, le combat féministe n'est pas absent, mais on dirait que sa question est réglée. Comment percevez-vous cet aspect de votre œuvre ? Est-il conscient ? Est-ce qu'il renvoie à une vision plus générale de l'humanité ?
Je suis très choquée.
Ah !
Parce que le combat féministe... cher ami, je pense que vous n'avez pas lu Les yeux d'Elsa.
Si.
J'ai quand même écrit Les yeux d'Elsa, par exemple, pour parler de quelque chose qui, à mes yeux, était très étonnant. Comment est-ce que les hommes peuvent être à la fois amoureux, bienveillants vers les femmes, tendres, et en même temps les considérer comme des créatures inférieures? Ça se produit très souvent. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier où je suis... Je suis assez haut dans la hiérarchie universitaire. Il y a un moment où je ne peux pas monter plus haut parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le plafond de verre qui existe. Je me suis pas mal cogné la tête dessus. Dans les équipes présidentielles des universités, il n'y a pratiquement pas de femmes. Les présidents d'université, il n'y a pratiquement pas de femmes. Il y a un moment où, mais je vous parle de l'université parce que c'est mon univers, mais c'est vrai à peu près partout. Vous prenez la télévision privée, vous prenez les sociétés du CAC 40, vous prenez à peu près n'importe quoi. On est dans un univers où, disons qu'il faut mieux être un mâle blanc hétérosexuel d'un bon milieu social ayant de l'argent. Qu'est-ce que je pourrais rajouter encore ?
Riche et
en bonne santé, et voilà. Beau et grand, la vie sera beaucoup plus facile que si vous n'avez pas une de ces qualités. Le féminisme, c'est juste, on ne peut pas dire qu'il y a des minorités opprimées quand on parle des femmes. On n'a même pas de mots pour expliquer ce problème. On n'est pas une minorité.
On est même une majorité.
On est même très peu une majorité. En tout cas, il est absurde de dire qu'on fait partie des minorités opprimés, ou je ne sais quoi dire, on n'est peut-être pas vraiment opprimés. Mais, alors, mon histoire, les yeux d'Elsa, pour en revenir là, je voulais parler du fait que, inconsciemment, sans même le faire exprès, beaucoup d'hommes portent sur les femmes un regard légèrement condescendant, se sentent, considèrent que c'est à eux de prendre les décisions, à eux de décider, que leur parole est plus significative que celle de la femme, qui finalement devra s'accommoder de la place qu'on lui donnera ou qu'on lui laissera. Et je ne savais pas comment parler de ça. Et j'aurais pu en parler en mettant en scène des couples de différentes natures, en mettant en scène, un gardien dans un camp de concentration, amoureux d'une jeune juive, ça marchait aussi. Mais si j'avais fait ça, on avait tout de suite des jugements moraux. On savait tout de suite qu'il y avait des trucs pas bien, que le type, ce qu'il faisait, c'était pas bien, qu'il devrait pas raisonner comme ça. Du coup, j'ai posé le problème autrement. J'ai fait de la femme un dauphin génétiquement amélioré. Cette fille, donc, c'est un dauphin. Elle est capable, non, elle est très intelligente. Elle parle, elle communique, elle est à droite. Mais n'empêche qu'au lieu de l'homme qui va tomber amoureux d'elle et qui va être effectivement amoureux d'elle, il aura toujours dans un coin de sa tête la pensée « oui, mais elle n'est qu'un animal ». Et en fait, ce sera vrai. Et du coup, je pense que c'est un peu déstabilisant pour le lecteur. Ça l'était pour moi, en tout cas. D'essayer de comprendre comment il construit ses jugements de valeur et comment il arrive à concilier cette vision un peu dévalorisante qu'il a d'elle avec un vrai amour authentique. Pour aller jusqu'au bout de l'histoire, c'était aussi une manière de raconter quelque chose de très intime et de très personnel, mais où évidemment j'étais la femme, qui n'est pas le personnage principal ni le narrateur dans l'histoire dont je vous parle. Elle est racontée du point de vue de l'homme. J'avais besoin de comprendre comment l'homme pouvait avoir des choses qui me semblaient inconciliables dans sa tête et être sincère, mais d'une manière qui pour moi était complètement inacceptable.
Il va jusqu'à la droguer.
Il la drogue, il la fait travailler dans les camps. Mais bon, c'est normal. C'est un dauphin qui est là pour accompagner les humains. Et le fait qu'elle soit intelligente, qu'il l'aime, qu'il ait des rapports charnel, amoureux, très intense avec elle, qu'elle défende son point de vue avec pugnacité, parce que c'est une dauphine qui a la langue bien pendue, hein, et qui a des idées assez arrêtées sur un certain nombre de questions. Mais ça change rien. Dans sa tête, ça change rien.
Tu vois, je l'avais pas lu du tout sous cet angle.
Mais on n'en a jamais parlé de cette nouvelle, vraiment.
Non, mais je l'avais pas lu du tout sous cet
angle. C'est une nouvelle purement féministe.
Non, mais maintenant que vous le dites, c'est évident. Mais je ne l'ai vraiment pas lu comme ça.
Comme quoi, il y a plusieurs manières de lire.
Ah oui. Mais c'est clair, je me suis totalement fait avoir par le côté passionnel, tu vois. Et du coup, je n'ai pas regardé le reste.
Du coup, elle est désespérante, cette histoire, si on ne regarde que le côté passionnel. Alors que si on regarde le côté féministe, tout devient beaucoup plus limpide, il me semble.
Il va falloir que je la re-relise, alors. Alors, en parlant de vos âmes et vos cycles,
De quoi, pardon ?
Vos âmes et vos cycles, les âmes et les cycles de la science-fiction, tu sais. Un éminent neuropsychiatre prétend que l'objet de science qu'on choisit est un aveu autobiographique. Alors, vos textes tournent souvent, il me semble, autour de la communication, de ses réussites, de ses échecs. Votre autre métier vous relie sans peine à ces problématiques. Est-ce un aveu autobiographique à travers cet objet de science et cette thématique ?
Oui, sûrement. Mais j'ai toujours eu envie d'aller loin dans la communication avec les autres. J'aurais aimé être télépathe. J'aimerais pouvoir changer de peau de temps en temps avec n'importe lequel d'entre vous pour passer une journée à l'intérieur de lui et voir le monde comme il le voit. Pour moi, j'ai toujours eu envie d'aller très très loin dans la communication. Et je ne sais pas le faire, évidemment, personne ne sait. Mais j'ai peut-être plus de frustration que d'autres. J'ai toujours, et je pense que, bon, si tu veux qu'on fasse un peu de psychanalyse, comme le fait que petite, j'ai été isolée, j'ai pas appris les règles du vivre ensemble en même temps que les autres et de la même façon. Je les ai beaucoup théorisées. Et je pense que même maintenant, il y a des trucs que j'ai pas bien compris sur la manière dont on se positionne à l'intérieur d'un groupe. Je me sens toujours... J'adore établir des contacts avec une personne, discuter avec une personne. Je discute très bien avec une personne à la fois. Je peux discuter aussi devant un amphi. Et même si l'amphi fait 500, il y a 500 personnes, ça ne me dérange pas. Mais alors se retrouver au sein d'un groupe de 10 personnes et comprendre quelle est ma place à l'intérieur d'un groupe, je n'ai jamais su le faire. Donc j'ai appris à compenser ça en essayant d'abord de décoder des signaux inconscients qu'on envoie tous, des signaux corporels, et puis en écoutant très attentivement. Et puis, je passe mon temps à faire des expériences littéraires où je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est mes travaux pratiques à moi.
Ton labo ?
C'est mon labo expérimental. C'est mes expériences de pensée.
Alors, vous avez déclaré dans plusieurs interviews que vos recueils étaient organisés chaque fois autour d'une thématique précise. Alors, espace insécable autour du choix. Pour le miroir aux éperluettes sur la vue et l'amour. L'opéra de Chaya s'organise autour de Chaya, quand même.
Non, mais tu... Alors, je vais reprendre.
Attends. Tu me reprends après quand j'ai fini de poser la question ?
Je vous en prie.
Alors, est-ce que vous envisageriez un recueil qui tiendrait compte de l'évolution de votre écriture cette fois ? C'est-à-dire qui irait des premiers textes au dernier. Et dans ce cas-là, est-ce que vous percevez un chemin ?
Bon, alors d'abord, il faut que je raconte...
Rectifie d'abord la bêtise
oui.
que j'ai dite.
Alors, j'ai commencé par écrire des nouvelles en 1985, ça fait longtemps. Mes premières nouvelles ont été publiées... Ma toute première a été publiée dans Univers 85 chez J'ai lu, donc en livre de poche. Dans la même période, j'ai été publiée une nouvelle au Canada, une nouvelle un peu plus tard dans Le Monde, à l'époque où Le Monde, le dimanche, publiait une nouvelle. Et puis, dans des supports, quand on écrit des nouvelles, on est dans des anthologies, dans des revues, ou quoi. Ou dans la presse éventuellement, mais il n'y a pas tant de supports possibles. Et il a fallu très très longtemps, c'est en 2005, donc 20 ans après, un jour j'ai fait là une rencontre formidable avec Jérôme Vincent, qui est le directeur des éditions ActuSF, qui m'a dit, bon je venais d'avoir un grand prix de l'imaginaire, c'était juste après la... les récompenses qu'ont eues les yeux d'Elsa, justement. Et à ce moment-là, bon, pour un éditeur, publier des nouvelles, ce n'est pas un choix commercial très rentable. À ce moment-là, donc, Jérôme m'a proposé de commencer à reprendre mes nouvelles, qui avaient déjà eu une première vie, de les reprendre en recueil. Donc le rassemblement thématique, je l'ai fait sur des textes dont une partie avait déjà été écrite. Et puis, j'ai complété avec des inédits. Donc, le premier qu'on a publié ensemble, Le miroir aux éperluettes, c'est effectivement sur la thématique de la rencontre, et puis du regard qu'on peut avoir sur la rencontre, mais c'est des histoires de rencontre. L'éperluette, c'est le « et » commercial. On dit aussi l'esperluette, c'est ce qui relie deux choses. Roux et Combalusier, par exemple, quand
par
c'est des ascenseurs.
Par chemin et traverse.
Par chemin et traverse, oui. Ou Rivoire et Carré. Bon. On peut en trouver plein, oui. Ensuite, le deuxième, espace insécable, c'était sur ce qui, à mes yeux, était l'étape d'après. C'est bien joli de s'être rencontrés et d'avoir décidé de faire un bout de chemin ensemble. Bon, c'est pas forcément deux êtres humains, ça peut être des rencontres un peu bizarres, mais on fait un bout de chemin ensemble. Et puis, à un moment donné, il y a une question qui se pose, et il y a un choix à faire, et un choix difficile, parce qu'il y a des choses intéressantes sur tous les chemins possibles, et comment on fait pour... Ma mère me disait un truc terrible quand j'étais petite, je m'en suis toujours permise. Elle me disait, choisir, c'est éliminer. Je sais pas vous, mais moi, c'est un truc que je n'ai jamais trouvé supportable, cette phrase. Et pourtant, c'est vrai, à chaque fois qu'on fait un choix, il faut éliminer des possibles. Ça, c'est la thématique de espace insécable. Le troisième, c'était Marouflage, dans laquelle il y a les yeux d'Elsa. Et je me suis demandé de quoi je parlais dans les yeux d'Elsa. Il y a plein de manières de parler d'une nouvelle, mais quelle était la thématique plus globale qu'on pouvait trouver pour parler de la vraie question. Et je suis arrivée à l'idée que ce dont j'y parlais, c'était des mensonges qu'on se raconte à soi-même et à propos de soi-même. Comment on se raconte notre propre vie et qui on est? Parce qu'une des caractéristiques de mon héros, c'est, comme nous tous, je pense, il est toujours convaincu qu'il est un type très bien. Il est, à ses propres yeux, un type noble, honnête, courageux. Quoi qu'il fasse, il aura l'impression de commettre, de faire des choses qui font de lui un type bien. On a tous besoin de sentir qu'on est des gens bien. Mais comment on fait pour se raconter l'histoire de la bonne manière pour arriver à ça? Et qu'est-ce qui se passe quand on gratte sous la surface? Dans ce recueil, il y a une des nouvelles où il y a une fille qui se raconte sa vie et qui va être bousculée par l'arrivée d'une autre fille qui va tout arracher de ce qu'elle se raconte sur elle-même. Cette nouvelle, on n'en parle pas souvent, moi je l'aime bien, elle s'appelle Le prix du billet. Il y a quelqu'un qui vient arracher tous les lambeaux d'histoire qu'elle s'est inventée pour justifier ses choix de vie et le fait qu'elle va partir d'ailleurs. Et la fille qu'elle va rencontrer est très déstabilisante, ça fait mal dans un premier temps. Et en fait, quand elle aura l'épiderme à vif, elle va prendre conscience de différentes choses et elle va retrouver une forme de dignité et d'estime d'elle-même que toutes les couches de papier peint qu'elle portait depuis tant d'années lui avaient fait oublier. Donc elle va retrouver une espèce de force et de dignité intérieure en abandonnant son maquillage. Et la dernière, l'opéra de Chaya, c'est vraiment comment on fait pour réagir et comprendre la différence quand cette différence est importante et fondamentale. Comment on peut interpréter quel regard on a sur des gens qui raisonnent différemment, qui pensent autrement. Et ça, c'est une question d'une grande actualité, je trouve, parce que on est quand même dans des univers où on a tendance à se regrouper entre gens qui pensent pareil de plus en plus. On a de plus en plus de mal à comprendre le point de vue de ceux qui sont ailleurs, autrement. Et c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose tous. C'est pas parce que quelqu'un pense autrement qu'il est un abruti ou qu'il est... c'est intéressant de comprendre pourquoi il pense autrement, quelle est la trajectoire personnelle qui l'a amené ailleurs. Et puis après, le débat est possible. Mais si on est tous braqués sur nos positions, il n'y aura pas de débat.
Oui, il y a des gens qui tiennent des raisonnements univoques, sans nuance. Et dès qu'ils apportent une nuance, ils ouvrent la porte à la rhétorique et à la destruction du raisonnement.
Et puis, on n'est pas obligé de tomber tous d'accord à la fin. On peut chacun garder ses positions et ses points de vue, mais au moins que l'on reconnaisse à celui qui a d'un avis différent le fait qu'il est aussi honorable que nous. Moi, j'ai du mal aussi, des fois, quand je suis face à des gens qui sont, contre le mariage pour tous. macho, on parlait de féminisme, raciste, il y a des gens dont le point de vue me paraît insupportable, eh bien, je fais de gros efforts pour essayer de comprendre quelle est la trajectoire, le raisonnement qui fait qu'ils sont arrivés à ce point-là, pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce chemin, peut-être en parler. Si un jour ils changent d'avis, moi je ne changerai pas d'avis. Peut-être qu'ils sont destinés à, ils sont décidés à ne pas changer d'avis non plus. Mais qu'on puisse parler, c'est important. On est tous dans le même monde, sur la même planète. On vit ensemble. Et il faut au moins qu'on puisse reconnaître ce statut d'humain qui nous donne tous une valeur significative. Je viens d'écrire une petite nouvelle où il y a des gens qui essaient de donner une valeur significative. Alors j'ai pris le truc le plus extrême. On est dans un monde où il y a des... Je vais vexer personne. Il y a des gens qui sont végans, il y a des gens qui ont beaucoup de respect pour toute forme de créature vivante. Et je trouve ça très bien. Mais j'ai voulu pousser la chose encore plus loin. Et il y a des gens qui ont un respect immense pour... des petites créatures qui font partie d'un environnement domotique et qui sont des créatures artificielles, et on veut leur donner une liberté de penser.
C'est le karma du chat dans Galaxie.
C'est le karma du chat, oui.
D'accord.
C'est bien de mener les idées à l'extrême pour voir où ça nous emmène. C'est amusant.
Alors, vos textes sont toujours éminemment sensuels, tactiles, visuels, odorants. Parfois, ça pue carrément. Alors, c'est une démarche ou c'est, comment dire, un état d'être chez vous ?
Ben, ça fait partie du processus dont on parlait tout à l'heure. Pour qu'une histoire existe, pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose d'immersif. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur d'un personnage et vivre avec lui. Donc, si je racontais froidement, il n'y aurait pas d'immersion et il ne prendrait pas vie. Il ne prend vie pour moi que par tout ce qu'il éprouve, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il sent. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que quand ça se passe bien, en 2-3 pages, on se retrouve face à un vrai personnage qui a du corps, enfin qui a une vraie existence. Mais moi, j'ai besoin de ça. Si on m'interdisait de parler de couleurs ou d'odeurs ou de sensations tactiles, je ne pourrais plus rien écrire. Parce que j'aurais plus de personnages.
Donc, si tu
fais... Je n'aurais que des abstractions et on ne fait pas des histoires avec des abstractions.
La vie du robot sans les senseurs.
J'ai jamais écrit d'histoire de robot et je le ferai que quand il aura des senseurs d'une autre qualité que celle qu'on a maintenant.
Alors, parmi vos nouvelles, ma préférée, on en a déjà pas mal parlé, c'est Un amour de sable. Une nouvelle que je compare sans peine à celle de Robert Sheckley, pour moi. Hein. C'est un avis que je partage sans l'amoindrir. Si vous deviez me parler spécifiquement d'une de vos nouvelles, pas forcément celle que vous préférez, mais celle que vous auriez envie de mettre en lumière particulièrement, ça serait laquelle ?
Bon, Un amour de sable, on en a parlé. C'est drôle de la comparer à Sheckley parce que Sheckley est un grand humoriste de la SF. Et c'est vrai qu'il a un regard un peu distancié et paradoxal. Mais c'est pas une nouvelle qui joue sur l'humour, celle-là.
Mais pourtant, moi,
oui, mais peut-être, oui. Je veux bien le croire.
Je la trouve très cruelle.
Mais tant mieux. J'adore Robert Sheckley, donc c'est un beau compliment.
Je la trouve à la fois d'une drôlerie et d'une cruauté à la fois qui est totale. Mais évidemment, il faut supporter Sable pour trouver ça. Et ça nous amène à en rire, forcément. Vous voyez ?
Tout à fait, je vois.
Alors,
donc, une nouvelle. Bon, je peux pas parler de l'opéra de Chaya parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas lu et que si j'en dis quoi que ce soit, je vais faire des révélations intempestives qui vont gâcher le plaisir de lecture. Donc, il faut mieux que je parle. Je peux parler de la petite nouvelle qui sort aujourd'hui même. Donc, je sais que personne ne l'a lue, je pense, ou presque, puisqu'elle est dans l'anthologie Parchemin et Traverse, qui est l'anthologie 42. C'est une petite nouvelle qui s'appelle Mélomania. Cette petite nouvelle, elle a été écrite dans des circonstances un peu particulières, puisque c'était pendant un match d'écriture et où on avait 2 heures de temps pour écrire un texte. Et j'avais une consigne de départ qui était la thématique de la greffe. 2 heures pour écrire un texte, c'est pas long. On prend pas beaucoup de temps pour réfléchir avant de commencer. Donc, le point de départ que j'avais, je m'étais dit, on va éviter des histoires classiques où on se fait greffer un membre. J'avais lu peu de temps avant un article qui parlait d'un homme qui avait eu le nez broyé dans un accident de voiture et à qui on avait réussi à refaire pousser du cartilage et de la chair sur la cuisse, je crois. En gros, on lui avait refait pousser un nez sur la cuisse et puis après, on avait prélevé le nez et on lui avait regreffé. Il y a des greffes de peau qui existent. Enfin bon, c'est quelque chose qui commence à se faire. Faire pousser sur un endroit du corps un organe à replacer quelque part et puis le transplanter. Et je me suis dit, ce serait quand même plus intéressant si l'organe, on le faisait pousser chez quelqu'un d'autre que le porteur à qui il est destiné. Donc le point de départ, c'était qu'une sœur, pour aider son frère qui a eu un gros accident, accepte de porter pour lui une main qu'on va lui greffer quand elle aura bien grandi, parce qu'il est devenu manchot à la suite d'un accident, il a été amputé d'une main. Et voilà, elle se dévoue pour lui faire pousser une main. Et puis après, l'histoire a progressé toute seule, c'est-à-dire que quand on raconte une histoire comme ça, où est-ce qu'on va se faire pousser une main ? Bon, alors, je ne sais pas à quel endroit vous vous feriez greffer une main si vous décidez de la faire pousser sur votre corps provisoirement. Moi, je me suis dit, nous, on est des femmes, ça nous arrive de porter des corps un petit peu étrangers pendant un certain temps et on les met sur le ventre. C'est quand on fait pousser un bébé, il se met là. Donc, ce n'est pas forcément un mauvais endroit. Donc, du coup, j'ai décidé qu'elle allait faire pousser la main sur son ventre. Et la main, elle est sortie progressivement. Et j'ai commencé à raconter l'histoire, comme je fais toujours, du point de vue de la fille, mais complètement intériorisée. C'est-à-dire qu'elle n'explique rien, elle raconte, mais tout est normal pour elle. On est dans un environnement où ça peut se faire. Et il y a les doigts qui sortent, et puis la main tout entière. Et puis la main se met à jouer du piano. Et bon, ça va vite, je ne vous raconte pas tout. Mais j'ai relu cette histoire après coup, et j'ai mesuré à quel point elle était science-fictive, au sens où, finalement, ce qui s'est construit avec ce processus, c'est un rapport, une réflexion sur le rapport à nous-mêmes et à notre corps, qu'on ne peut pas avoir dans notre vie quotidienne et dans la vraie vie. Une partie de votre corps, c'est un bout de vous. Ou bien vous portez une prothèse et c'est quelque chose que vous intégrez et qui fera partie de vous. Et là, il a un rapport avec une main qui, en principe, est destinée à son frère, qui a des réactions, mais qui n'est pas intelligente. Et avec qui elle invente un type de relation qui ressemble peut-être un peu à la relation qu'on pourrait avoir avec un animal, mais un animal ne fait pas partie de vous. Y a quelque chose d'assez curieux qui se construit, qui n'est pas complètement expliqué, mais je pense que si vous lisez cette nouvelle, vous le vivrez avec elle. C'est une expérience de pensée, brève et presque désinvolte, justement, je m'en suis aperçue en le lisant après, parce que ça va très vite et que j'explique pas. Mais après, le lecteur, ça lui parle ou ça lui parle pas, mais si ça lui parle, vous allez vivre l'expérience curieuse de porter sur votre ventre la main qui est destinée à être greffée sur quelqu'un d'autre. Et on verra ce que vous aurez envie d'en faire. Mon personnage a pris une décision inattendue d'ailleurs. Je ne l'avais pas préméditée en écrivant. Mais elle s'est mise à exister quand j'ai parlé d'elle et des sensations qu'elle éprouvait. Et là, elle s'est mise à prendre des décisions toute seule. C'était une expérience très rigolote.
On a beaucoup ri ce jour-là, d'ailleurs, je m'en souviens. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce que quelqu'un dans la salle a envie de poser une question à Sylvie Lainé ?
Puisque je suis désolée, j'ai tourné le dos à une partie de la salle, mais...
Non ? Personne ? Tu les as terrorisés. Alors, la dernière question, la question... obligatoire. Vos projets, Sylvie Lainé ?
Bon, alors, j'ai toujours des nouvelles en cours. C'est vrai que je ne fais pas que des nouvelles. Je viens d'écrire un texte sur un tout autre principe. C'est une lettre je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je pense, une lettre à Alan Turing. Il y a un éditeur qui a sollicité un certain nombre de gens pour écrire une lettre à Alan Turing. Donc le principe est intéressant, mais c'est pas de la science-fiction traditionnelle. Parmi les expériences atypiques, j'ai écrit une nouvelle graphique à partir de l'univers d'un peintre. Là, j'ai quelques petites nouvelles dans les tuyaux. Et puis, je vais recommencer à écrire une novella pour un beau projet avec les éditions ActuSF, où oui, il va y avoir un rassemblement de pas mal de mes textes. Donc, et puis les meilleurs projets sont ceux qu'on n'a pas complètement prémédités et qui vous prennent un peu par surprise. Moi, c'est ceux que je préfère. Avis, si vous avez une proposition saugrenue à faire, venez me le dire, j'adore ça.
Je confirme, parce que Sylvie a accepté une proposition sautée-grenue que je lui ai faite l'année dernière, mais peut-être que tu n'as pas envie d'en parler là.
De laquelle tu parles ? On fait plein de trucs saugrenus ensemble.
Ah oui, bien sûr. Donc, tu as envie d'en parler ou pas ?
42 ?
Non, pas 42.
Je vais me lancer dans une autre aventure qui, cette fois-ci, est une aventure d'anthologiste, c'est-à-dire faire travailler des auteurs, rassembler des textes. Mais ça, c'est le même plaisir que j'avais à l'époque où je faisais un fanzine. C'est encourager aussi ceux qui commencent à écrire, qui ne savent pas toujours exactement comment travailler, leur donner un retour, les encourager. Et puis moi, j'adore les aventures collectives. L'écriture, c'est souvent assez individuel. Mais justement, les anthologies et tout ce travail qui est ouvert, où on mélange des débutants, des expérimentés, où on se raconte des expériences, c'est le même bonheur qu'aux Utopiales, c'est faire des trucs ensemble. Moi, j'adore faire des choses avec les autres.
Je trouve que c'est une super conclusion. Voilà. Merci, Sylvie.
Merci. Dumais.